From the Conference Center at Temple Square.
Diffusé depuis le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City, voici la session du dimanche matin de la 188e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par le Chœur du Tabernacle. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. Henry Eyring, deuxième conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session.
Mes frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la session du dimanche matin de la 188e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Le président Nelson, qui préside la conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous adressons une très fraternelle bienvenue aux personnes du monde entier qui suivent cette session à la radio, à la télévision, sur l'Internet ou par satellite. Nous saluons la présence des autorités générales et officiers généraux qui assistent à cette conférence ce matin. La musique de cette session sera interprétée par le Chœur du Tabernacle sous la direction de Mac Wilberg avec Richard Elliott et Andrew Unsworth à l'orgue. Le chœur a ouvert cette réunion en chantant « Hosanna au grand roi » et interprétera à présent « Sauveur d'Israël ». Alan Parker, qui a été nommé autorité générale émérite hier après-midi, fera ensuite la prière d'ouverture. Le chœur chantera ensuite « Bien choisir ».
Notre Père Céleste, nous sommes reconnaissants d'être réunis ce matin pour la session de conférence générale du dimanche matin. Nous reconnaissons tes bénédictions et les directives que nous avons reçues. Nous venons pour t'adorer et ton Fils, pour apprendre, pour être édifié, pour être motivé et inspiré, et surtout pour apprendre comment nous pouvons faire avancer ton œuvre. Nous sommes reconnaissants pour tous ceux qui sont engagés dans cette préparation. Ceux qui vont parler et bénir la vie des membres de l'Église au cours de cette conférence. Nous prions que ton esprit soit là abondamment, que chacun des orateurs puisse être en mesure d'exprimer ce qui a été préparé, et que nous, en tant que membres de l'Église, à travers le monde, puissent être en mesure d'entendre et de nous souvenir, et comprendre et mettre en pratique ces principes dans nos vies. Nous demandons que tu bénisses le président Nelson, ses conseillers, le Collège des 12 et tous les dirigeants à travers le monde. Nous demandons que tes bénédictions soient auprès de ceux qui souffrent, de catastrophes naturelles. Nous te demandons de bénir et de fortifier ceux qui souffrent physiquement, émotionnellement ou d'autres pour d'autres causes dans leur vie. Nous exprimons notre amour et notre reconnaissance. Nous t'exprimons notre amour et notre reconnaissance au nom de Jésus-Christ. Amen.
Prends maintenant le plaisir d'écouter Russell Ballard, président suppléant du Collège des Douze Apôtres. Il sera suivi de Bonnie Cordon, présidente générale des Jeunes Filles. Jeffrey Holland, du Collège des Douze Apôtres, nous adressera ensuite la parole.
Mes frères et sœurs, j'avais préparé mon discours quelque temps avant le décès de ma chère épouse Barbara. Ma famille et moi-même vous remercions pour votre amour et votre gentillesse. Je prie le Seigneur de me bénir pendant que je vous adresse la parole ce matin. En octobre 1918, il y a 100 ans, Joseph F. Smith reçut une vision glorieuse. Après près de 65 ans de service dévoué au Seigneur dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, et quelques semaines seulement avant sa mort, le 19 novembre 1918, il était assis dans sa chambre, méditant sur le sacrifice expiatoire du Christ et lisant la description de l'apôtre Pierre du ministère du Sauveur dans le monde des esprits après sa crucifixion. Il écrit, je cite, « Tandis que je lisais, je fus profondément impressionné. Tandis que je méditais sur ces choses, les yeux de mon intelligence s'ouvrirent. L'Esprit du Seigneur reposa sur moi, et je vis les multitudes des morts. » Le texte intégral de la vision est enregistré dans la section 138 des Doctrines et Alliances. Je vais donner quelques éléments de contexte pour que nous puissions apprécier plus pleinement la façon dont Joseph F. Smith a été préparé tout au long de sa vie à recevoir cette révélation remarquable. En 1906, quand il était président de l'Église, il visita Nauvoo et évoqua un souvenir qu'il avait de l'époque où il n'avait que 5 ans. Il dit, « C'est l'endroit exact où je me tenais, quand mon oncle Joseph et Hiroum, mon père, sont arrivés à cheval en route pour Carthage. Sans descendre de cheval, mon père s'est penché vers moi et m'a soulevé du sol. Il m'a embrassé pour me dire au revoir, m'a reposé par terre et je l'ai vu s'éloigner. » La prochaine fois que Joseph F. Smith les vit, sa mère, Mary Fielding, le souleva pour qu'il voie les martyrs allongés côte à côte après leur brutal assassinat dans la prison de Carthage le 27 juin 1844. 2 ans plus tard, Joseph F. Smith quitta son foyer de Nauvoo pour se rendre à Winter Quarters, accompagné de sa famille et de sa mère fidèle, Mary Fielding Smith. Bien qu'il n'eût pas encore 8 ans, on lui demanda de conduire l'un des attelages de bœufs de Mount Rose, Iowa, à Winter Quarters, puis plus tard jusqu'à la vallée du lac Salé, où il arriva quand il avait presque 10 ans. J'espère que vous, garçons et jeunes gens, écoutez et prendrez conscience de la responsabilité dont a été chargé Joseph F. Smith et de ce que l'on entendait de lui quand il n'était qu'un jeune garçon. 4 ans plus tard seulement, en 1852, quand il avait 13 ans, sa mère bien-aimée mourut, laissant Joseph et ses frères et sœurs orphelins. En 1854, à l'âge de 15 ans, Joseph fut appelé à faire une mission dans les îles Hawaï. Cette mission, qui dura plus de 3 ans, fut le début d'une vie de service dans l'Église. En 1859, après son retour en Utah, Joseph F. Smith se maria. Au cours des années suivantes, sa vie fut occupée par le travail, les responsabilités familiales et 2 autres missions. Le 1er juillet 1866, à l'âge de 27 ans, la vie de Joseph changea à jamais quand il fut ordonné apôtre par Brigham Young, le président de l'Église. En octobre de l'année suivante, Il fut appelé à remplir la place restée vacante au Conseil des Douze. Il fut conseiller de Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff et Lorenzo Snow, avant de devenir lui-même président de l'Église en 1901. Joseph F. Smith et sa femme Julina eurent leur premier enfant, Joséphine. Elle n'avait que 2 ans et demi quand elle mourut. Peu après, Joseph écrivit : « Cela a fait 1 mois hier que ma chère Joséphine est morte. Oh, que n'ai-je pu la sauver pour qu'elle grandisse jusqu'à devenir une femme. Elle me manque tous les jours et je me sens seul. Que Dieu pardonne ma faiblesse s'il est mal d'aimer mes enfants comme je les aime. » De son vivant, le président Smith perdit son père, sa mère, un frère et 2 sœurs, 2 épouses et 13 enfants. Il connaissait bien le chagrin de perdre des êtres chers. Quand son fils Albert Jesse mourut, Joseph écrivit à sa sœur Martha Ann qu'il avait supplié le Seigneur de le sauver et avait demandé « Pourquoi ? Oh Dieu, pourquoi devait-il en être ainsi ?» En dépit de ses prières à cette période, Joseph F. Smith ne reçut aucune réponse à ce sujet. Il dit à Martha Ann : Les cieux paraissent semblables à de l'airain au-dessus de nos têtes, au sujet de la mort et du monde des esprits. Néanmoins, sa foi dans les promesses éternelles du Seigneur était ferme et constante. Au moment choisi par le Seigneur, le président Smith reçut les réponses, le réconfort et la compréhension complémentaire qu'il recherchait concernant le monde des esprits, grâce à la merveilleuse vision qui lui fut donnée en octobre 1918. Cette année fut particulièrement douloureuse pour lui. Il éprouvait du chagrin en songeant aux morts de la Grande Guerre, dont le nombre continua de grimper jusqu'à dépasser 20 millions. En outre, une épidémie de grippe se répandait dans le monde. Elle ôta la vie à plus de 100 millions de personnes. Au cours de cette année-là, le président Smith perdit aussi 3 autres membres de sa famille. Hiram Mack Smith, du Collège des 12 apôtres, qui était son fils aîné, et mon grand-père, mourut soudain d'une rupture de l'appendice. Le président Smith m'a écrit : Je suis sans voix, paralysé par la douleur. Mon cœur est brisé et peine à vivre. Oh, je l'aimais, je l'aimerai pour toujours. Et ainsi en est-il, et en sera-t-il toujours de tous mes fils et mes filles. Mais il est mon fils premier-né, le premier à m'avoir apporté la joie et l'espérance d'une postérité sans fin et d'une bonne réputation parmi les hommes. Je remercie Dieu pour lui des tréfonds de mon âme, mais, oh, j'avais besoin de lui. Nous avions tous besoin de lui. Il était tellement utile à l'Église. Et maintenant, oh, que faire? Oh, que Dieu me vienne en aide. Le mois suivant, Alonzo Kessler, gendre du président Smith, mourut dans un tragique accident. Le président Smith écrivit dans son journal : Cet accident mortel, le plus terrible et le plus déchirant qui soit, a de nouveau jeté un voile de tristesse sur toute ma famille. 7 mois plus tard, en septembre 1918, Ida Bowman Smith, bru du président Smith, et ma grand-mère, mourut après avoir donné naissance à son 5e enfant, mon oncle Hiram. Et c'est ainsi que le 3 octobre 1918, ayant éprouvé un immense chagrin suite à la mort de millions de personnes, des effets de la guerre et de la maladie, et au décès des membres de sa famille, le président Smith reçut la révélation divine appelée la vision de la rédemption des morts. Il fit allusion à cette révélation le lendemain, lors de la session d'ouverture de la conférence générale d'octobre. Malgré sa santé défaillante, Le président Smith prit brièvement la parole. Il dit, je ne peux, je n'ose aborder plusieurs choses qui occupent mon esprit ce matin. Et je remets à plus tard, si le Seigneur le veut bien, ma tentative de vous dire certaines des choses que j'ai à l'esprit et qui demeurent dans mon cœur. Je n'ai pas vécu seul au cours de ces 5 derniers mois. J'ai demeuré dans un esprit de prière, de supplication, de foi et de détermination. Et j'ai sans cesse communiqué avec l'Esprit du Seigneur. La révélation reçue le 3 octobre le consola et lui donna la réponse à beaucoup de ses questions. Nous pouvons, nous aussi, être consolés et en apprendre davantage concernant notre avenir. Quand nous, ainsi que ceux que nous aimons, mourrons et irons dans le monde des esprits, en étudiant cette révélation et en méditant sur son importance quant à la façon dont nous vivons chaque jour. Entre autres choses que le président Smith a vues, il y avait la visite du Sauveur aux fidèles dans le monde des esprits après sa mort sur la croix. Je cite la vision. Mais voici, parmi les justes, il organisa ses forces et désigna des messagers revêtus de pouvoir et d'autorité et les chargea d'aller porter la lumière de l'Évangile à ceux qui étaient dans les ténèbres. Oui, à tous les esprits des hommes et des femmes. Et c'est ainsi que l'Évangile fut prêché aux morts. On leur enseigna la foi en Dieu, le repentir du péché, le baptême par procuration pour la rémission des péchés, le don du Saint-Esprit par l'imposition des mains, et tous les autres principes de l'Évangile qu'ils avaient besoin de connaître pour se qualifier, pour être jugés selon les hommes quant à la chair, mais vivre selon Dieu quant à l'Esprit. Car les morts avaient considéré comme une servitude la longue absence séparant leur esprit de leur corps. Cela, le Seigneur les instruisit et leur donna le pouvoir de se lever après sa résurrection d'entre les morts pour entrer dans le royaume de son Père, pour y être couronnés d'immortalité et de vie éternelle. Continuez dorénavant leur labeur, comme le Seigneur l'avait promis, et prendre part à toutes les bénédictions réservées à ceux qui l'aiment. Fin de citation. Dans la vision, le président Smith a vu son père, Hiram, et Joseph Smith, le prophète. Cela faisait 74 ans qu'il les avait vus pour la dernière fois à Nauvoo, alors qu'il n'était qu'un jeune garçon. Nous ne pouvons qu'imaginer sa joie lorsqu'il a vu son père et son oncle bien-aimé. Cela a dû être une inspiration et une consolation de savoir que tous les esprits conservent l'apparence de leur corps mortel et qu'ils attendent avec impatience le jour promis de leur résurrection. La vision révélait plus pleinement la portée du plan de notre Père Céleste pour ses enfants, l'amour rédempteur du Christ et le pouvoir sans pareil de son expiation. En ce centenaire spécial, je vous invite à lire attentivement cette révélation. Que le Seigneur vous accorde, quand vous le ferez, de comprendre et d'apprécier plus pleinement l'amour de Dieu et son plan de salut et de bonheur pour ses enfants. Je témoigne que la vision que Joseph F. Smith a reçue est vraie. Je rends témoignage qu'en la lisant, chacun peut savoir qu'elle est vraie. Il ne fait pas de doute que les personnes qui ne reçoivent pas cette connaissance dans cette vie apprendront qu'elle est vraie quand elles arriveront dans le monde des esprits. Là, tous aimeront et loueront Dieu et le Seigneur Jésus-Christ pour le merveilleux plan du salut et pour la bénédiction de la résurrection promise, quand le corps et l'esprit seront de nouveau réunis pour ne plus jamais être séparés. Aujourd'hui, frères et sœurs, combien je suis reconnaissant de savoir où est ma chère Barbara et que nous serons de nouveau ensemble avec notre famille pour toute l'éternité. Que la paix du Seigneur nous soutienne tous, maintenant et à jamais. C'est là mon humble prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Président Ballard, nous vous aimons et nous prions pour votre famille. Il y a un an, un enfant de la primaire que j'ai rencontré au Chili m'a fait sourire. Il m'a dit « Bonjour, je m'appelle David. Est-ce que vous pouvez parler de moi à la conférence générale ?» Dans des moments de tranquillité, j'ai médité sur la demande inattendue de David. Nous voulons tous qu'on nous remarque. Nous voulons être importants, ne pas être oubliés et nous sentir aimés. Frères et sœurs, chacun de vous est important, même si l'on ne parle pas de vous à la conférence générale. Le Sauveur se souvient de vous et vous aime. Si vous vous demandez si c'est vrai, il vous suffit de vous rappeler qu'il vous a gravé sur ses mains. Sachant que le Seigneur nous aime, nous pourrions alors nous demander quel est le meilleur moyen de lui montrer notre amour pour lui. Le Sauveur demande à Pierre, « M'aimes-tu ? » Pierre répond, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix, mes agneaux. » Lorsque cette question lui fut posée une deuxième et une troisième fois, « M'aimes-tu ? » Pierre fut attristé, mais il confirma son amour. « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Est-ce que Pierre n'avait pas déjà prouvé qu'il était un disciple aimant du Christ? Dès leur première rencontre au bord de la mer, il a aussitôt abandonné ses filets pour suivre le Sauveur. Pierre était devenu un véritable pêcheur d'hommes. Il avait accompagné le Sauveur au cours de son ministère terrestre et avait participé à l'enseignement de l'Évangile. Mais à présent, le Seigneur ressuscité savait qu'il n'allait plus être à ses côtés pour lui montrer comment et quand servir. En son absence, Pierre allait devoir rechercher l'inspiration de l'Esprit, recevoir la révélation personnelle et en voir ensuite la foi et le courage d'agir. Focalisé sur ses brebis, le Sauveur désirait que Pierre fasse ce que lui-même ferait s'il était présent. Il a demandé à Pierre de devenir un berger. En avril dernier, Russell M. Nelson nous a également invités à paître les brebis de notre Père d'une manière plus sainte et de le faire à travers le service pastoral. Pour véritablement accepter cette invitation, il faut que notre cœur devienne celui d'un berger et comprendre les besoins des brebis du Seigneur. Comment devenons-nous les bergers dont le Seigneur a besoin? Comme en toute chose, nous pouvons prendre exemple sur notre Sauveur Jésus-Christ, le bon berger. Le Sauveur connaissait ses brebis et elles étaient comptées. Il veillait sur elles et les rassemblait dans la bergerie de Dieu. Dans nos efforts pour suivre l'exemple du Sauveur, nous devons tout d'abord connaître et compter ses brebis. On nous a attribué certaines personnes et certaines familles dont nous devons nous occuper afin d'être sûrs que personne du troupeau du Seigneur n'est oublié, que chacun est compté. Cependant, compter les brebis n'est pas une question de chiffres. Il s'agit de s'assurer que chaque personne ressent l'amour du Sauveur grâce à quelqu'un qui sert en son nom. De cette manière, tous peuvent reconnaître qu'un Père céleste aimant les connaît. Récemment, j'ai rencontré une jeune fille qui a reçu la tâche de veiller sur une sœur presque 5 fois plus âgée qu'elle. Elles ont découvert ensemble qu'elles partageaient l'amour de la musique. Lorsque cette jeune fille rend visite à cette sœur, elles chantent ensemble et se font découvrir l'une l'autre leurs chansons préférées. elles sont en train de nouer une amitié qui leur apporte à toutes les deux des bénédictions. J'espère que les personnes que vous servez vous verront comme un ami et comprendront que vous êtes leur défenseur, une personne à qui elles peuvent se confier, qui connaît leur situation et qui les soutient dans leurs aspirations et leurs espérances. Récemment, ma collègue de service et moi avons reçu la tâche de veiller sur une sœur que nous ne connaissions pas vraiment. Tandis que Jess, ma collègue de service pastorale âgée de 16 ans, et moi tenions conseil, elle a sagement proposé que nous devions faire sa connaissance. Immédiatement, nous avons décidé qu'un selfie et un petit message étaient une bonne idée. J'ai tenu le téléphone et Jess a appuyé sur le bouton pour prendre la photo. Notre première occasion de participer au service pastoral a été une action conjointe. Lors de notre première visite, nous avons demandé à notre sœur s'il y avait quelque chose que nous pouvions inclure dans nos prières en sa faveur. Elle nous a parlé d'une épreuve qu'elle traversait et a accepté volontiers que nous prions pour elle. Son honnêteté et sa confiance ont aussitôt créé un lien d'amour. Quelle merveilleuse bénédiction de se souvenir d'elle dans mes prières quotidiennes. En priant, vous ressentirez l'amour de Jésus-Christ pour les personnes que vous servez. Communiquez-leur cet amour. Y a-t-il une meilleure façon de paître ses brebis que de les aider à ressentir son amour par votre intermédiaire? Le deuxième moyen qui nous permet d'avoir un cœur de berger est de veiller sur ses brebis. En tant que membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, nous pouvons déplacer, restaurer, réparer et reconstruire pratiquement tout. Nous sommes promptes à aider aux besoins des autres en apportant notre aide ou une assiette de biscuits. Mais pouvons-nous faire plus? Nos brebis savent-elles que nous veillons sur elles avec amour et que nous agirons pour les aider? Dans Matthieu 25, nous lisons « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. » Les justes lui répondront « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ?» Frères et sœurs, le mot-clé est le verbe « voir ». Les justes ont vu les personnes dans le besoin parce qu'ils observaient et faisaient attention. Nous pouvons, nous aussi, regarder, garder les yeux ouverts pour aider et réconforter les autres, célébrer leur succès et partager leurs rêves. Et en agissant, nous recevons la promesse rapportée dans Matthieu. « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous les avez faites. » Un ami, que j'appellerai Jean, m'a raconté ce qui peut se passer lorsque nous voyons les besoins moins visibles d'une personne. Citation. « Une sœur de ma parole a fait une tentative de suicide. Deux mois après, j'ai découvert qu'aucun membre de mon collège n'était allé voir son mari pour parler de cette expérience traumatisante. Malheureusement, je n'avais rien fait non plus. Finalement, j'ai invité le mari à déjeuner. C'était quelqu'un d'assez réservé. Mais lorsque je lui ai dit « Ta femme a tenté de se suicider, tu dois être bouleversée. Est-ce que tu veux en parler ?» Il s'est mis à pleurer. Nous avons eu une conversation émouvante qui nous a rapprochés d'une manière incroyable et a établi un rapport de confiance en quelques minutes. Jean a ajouté, « Je pense que nous avons tendance à apporter des gâteaux au lieu de réfléchir à la manière d'aborder ces moments avec honnêteté et amour. Il se peut que nos brebis souffrent, qu'elles soient perdues ou qu'elles se soient égarées délibérément. Nous, leurs bergers, pouvons faire partie des premières personnes à voir leurs besoins. Nous pouvons écouter et aimer sans porter de jugement et apporter de l'espoir et une aide avec l'aide du Saint-Esprit. Frères et sœurs, il y a plus d'espérance et de joie dans le monde grâce aux gestes de gentillesse inspirés que vous accomplissez. Si vous demandez au Seigneur de vous aider à savoir comment transmettre son amour et à voir les besoins des personnes que vous servez, vos yeux seront ouverts. Votre tâche sacrée de service pastoral vous donne le droit divin de recevoir l'inspiration. Vous pouvez la rechercher en toute confiance. Troisièmement, nous voulons que nos brebis soient rassemblées dans la bergerie de Dieu. Pour ce faire, nous devons savoir où elles se situent sur le chemin des alliances et être prêts à les accompagner dans leur parcours de foi. Nous avons la bénédiction sacrée d'apprendre à connaître leur cœur et de les orienter vers le Sauveur. Sœur Josephine des Fidji avait du mal à voir littéralement comment progresser sur le chemin des alliances. Son amie a vu qu'elle avait un problème de vue qui l'empêchait de lire les Écritures. Elle lui a donné de nouvelles lunettes de lecture et un crayon de couleur pour souligner le nom de Jésus-Christ chaque fois qu'elle le trouvait dans le livre de Mormon. Ce qui n'était qu'un simple désir de servir et d'aider quelqu'un dans son étude des Écritures a conduit Sœur Josephine à aller au temple pour la première fois, 28 ans après son baptême. Que nos brebis soient fortes ou faibles, joyeuses ou angoissées, nous pouvons nous assurer que personne ne marche seul. Nous pouvons les aimer, quel que soit leur niveau de spiritualité, et leur apporter notre soutien et nos encouragements pour les aider à aller de l'avant. Je vous témoigne que si nous prions et cherchons à comprendre leur cœur, notre Père Céleste nous guidera et son Esprit nous accompagnera. Nous avons l'occasion d'être les anges qui seront tout autour d'elle, tandis qu'il va devant leur face. Pour paître ses brebis, il nous invite à être des bergers auprès de toutes les nations et de tous les pays. Et oui, frère Rugdorf, nous aimons les bergers allemands. Et il désire que les jeunes se rallient à la cause. Nos jeunes peuvent être nos bergers les plus forts. Comme le président Nelson l'a dit, ils sont les meilleurs que les seigneurs aient jamais envoyés sur cette terre. Ce sont des esprits nobles, nos meilleurs joueurs qui suivent le Sauveur. Pouvez-vous imaginer la force que ces bergers apporteront en prenant soin de ces brebis? En servant aux côtés des jeunes, nous sommes témoins de miracles. Jeunes filles et jeunes gens, nous avons besoin de vous. Si vous n'avez pas d'affectation de service pastoral, parlez-en à votre président de la société de secours ou à votre président de collège des anciens. Ils se réjouiront de votre désir de vous assurer que ces brebis sont connues, comptées, protégées et rassemblées dans la bergerie de Dieu. Je prie pour que le jour où nous nous agenouillerons au pied de notre Sauveur bien-aimé, après avoir fait paître son troupeau, nous puissions répondre comme Pierre. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Tes brebis sont aimées et en sécurité. Elles sont de retour à la maison. Au nom de Jésus-Christ, amen.
We all remember.
Nous rappelons tous en avril dernier, lorsque Russell Nessel nous a présenté le service pastoral comme un moyen de respecter les grands commandements d'aimer Dieu et de nous aimer les uns les autres. Les officiers de l'Église vous félicitent et vous encouragent pour la grande réponse que vous avez apportée en cette matière. Nous remercions de suivre notre prophète bien-aimé dans cette grande œuvre et suggérons que vous n'attendez pas de recevoir davantage d'instructions. Jetez-vous simplement à l'eau et nagez vers les personnes dans le besoin. Ne soyez pas tétanisés, vous demandant si vous devez faire du dos, crawler ou nager comme un petit chien. Si nous suivons les principes de base qui nous ont été enseignés, si nous restons alignés sur les clés de la prêtrise, et si nous recherchons le Saint-Esprit pour nous guider, nous ne pouvons pas échouer. Merci, Sœur Candon, pour ce grand message. Ce matin, j'aimerais parler d'un aspect encore plus personnel du service pastoral qui n'est pas donné comme une affectation, qui ne nécessite pas de calendrier d'entretien et pour lequel on ne fait rapport à aucune hiérarchie si ce n'est au ciel. Je vais vous raconter un exemple simple. Grant Morrell Bowen était un mari et un père travailleur et dévoué, qui, comme beaucoup de personnes qui vivent de la terre, a vu son activité chuter lorsque la récolte locale de pommes de terre a été mauvaise. Sa femme Norma et lui ont trouvé un autre emploi, ont fini par déménager dans une autre ville et ont fini par retrouver une stabilité économique. Cependant, Grant avait été profondément blessé suite à un incident fortement regrettable lors d'un entretien pour le temple dans lequel l'évêque s'était montré sceptique quant au fait qu'il payait une dîme complète. Je ne sais pas lequel de ces hommes avait raison ce jour-là, mais je sais que Sir Bowen est ressorti de son entretien avec une nouvelle recommandation à l'usage du temple, tandis que son mari est ressorti avec une colère qu'il a éloigné de l'Église pendant 15 ans. Indépendamment de qui avait raison, il est évident que Frère Bowen et l'évêque avaient tous deux oublié l'injonction du Sauveur, « Accorde-toi promptement avec ton adversaire » et l'exhortation de Paul « Que le soleil ne se couche pas sur votre colère ». Le fait est qu'ils ne s'étaient pas mis d'accord et que le soleil s'était couché sur la colère de Frère Bowen pendant des jours, puis des semaines et des années, prouvant ce qu'un des grands sages romains de l'Antiquité a dit. Si elle n'est pas maîtrisée, la colère est souvent plus destructrice que le préjudice qu'il a provoqué. Mais le miracle de la réconciliation est toujours possible, et par amour pour sa famille et pour l'Église qu'il savait être vrai, Grant Morell Bowen est redevenu pratiquant. Je vais vous dire brièvement comment cela s'est passé. Brad, le fils de Frère Bowen, est un très bon ami de notre fils et un 70 d'interrégion dévoué servant dans le sud de l'Idaho. Brad avait 11 ans au moment de cet incident, et pendant 15 ans, il a vu l'engagement religieux de son père décliner. Il a vu la récolte tragique qui s'est faite là où la colère et l'incompréhension avaient été semées. Il fallait faire quelque chose. Donc, à l'approche des fêtes de Thanksgiving de 1977, Brad, étudiant de 26 ans à l'université Brigham Young, sa femme Valérie et leur bébé Mick ont pris leur voiture en version étudiante et, bravant le mauvais temps, ils sont partis pour Billings au Montana. Même une collision avec une congère près de West Yellowstone n'a pu empêcher le trio d'aller au bout de leur action de service auprès du père de Brad. En arrivant, Brad a retrouvé sa sœur Pam. Et tous deux ont demandé à parler en privé à leur père. Non sans émotion, Brad a commencé. « Papa, tu as toujours été un père formidable. Et nous avons toujours su à quel point tu nous aimes. Mais quelque chose ne va pas. Et ce, depuis longtemps. Un jour, tu t'es senti blessé et toute notre famille en souffre depuis des années. Nous sommes brisés. Et tu es le seul qui puisse nous réparer. S'il te plaît, après tout ce temps, peux-tu trouver en ton cœur le moyen d'oublier cet incident malheureux avec cet évêque et de guider ta famille dans l'Évangile, comme tu le faisais autrefois. Il y a eu un silence de plomb. Puis Frère Bowen a levé les yeux vers ses enfants, la chair de sa chair, et a dit très doucement, « Oui, oui, je le ferai. » Heureux, mais sidéré par sa réponse inattendue, Brad Bowen et sa famille ont vu cet homme prendre rendez-vous avec son évêque dans un esprit de réconciliation afin de remettre sa vie en ordre. Réagissant à la perfection à cette visite courageuse mais totalement imprévue, l'évêque, qui n'avait eu de cesse d'inviter frère Bowen à revenir, l'a serré dans ses bras pendant un très long moment. Très, très longtemps. En quelques semaines seulement, frère Bowen était de nouveau pleinement pratiquant et s'était de nouveau qualifié pour retourner au temple. Peu de temps après, il a accepté l'appel de président d'une petite branche de 25 personnes qu'il a transformée en une assemblée florissante de plus de 100 membres. Tout cela s'est passé il y a près d'un demi-siècle. Mais les conséquences de la supplication qu'un fils et une fille ont faite à leur père et la disposition de ce père à pardonner et à aller de l'avant en dépit des imperfections des autres a suscité des bénédictions que la famille Bowen reçoit encore aujourd'hui. Frères et sœurs, Jésus nous a demandé de vivre ensemble dans l'amour et sans controverse parmi nous. Il a dit aux Néphites, « Celui qui a l'esprit de querelle n'est pas de moi. » En effet, notre relation avec le Christ sera déterminée ou affectée en grande partie par la relation que nous aurons les uns envers les autres. Il a dit, « Si tu désires venir à moi et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, va trouver ton frère et réconcilie-toi d'abord avec lui et ensuite viens à moi d'un cœur pleinement résolu. » Et je te recevrai. Chacun de nous peut certainement citer une série sans fin d'anciennes blessures, de chagrins et de souvenirs douloureux du passé qui, aujourd'hui encore, ronge la paix dans le cœur de quelqu'un, d'une famille ou d'un quartier, que nous soyons l'auteur ou la victime de cette souffrance. Ces blessures doivent être soignées pour que la vie puisse être aussi enrichissante que ce à quoi Dieu la destine. Ces vieux griefs, comme la nourriture dans votre réfrigérateur que vos petits-enfants vérifient soigneusement pour vous, ont dépassé depuis longtemps leur date de péremption. Je vous supplie de ne plus leur accorder de place si précieuse dans votre âme. Comme l'a dit Prospero au malheureux Alonso dans la tempête, ne chargeons pas nos souvenirs du poids du passé. Dans le sermon sur la montagne, le Christ a enseigné « Absolvez et vous serez absous ». Et à notre époque, moi le Seigneur, je pardonne à qui je veux pardonner, mais de vous, il est requis de pardonner à tous les hommes. Cependant, il est important que ceux d'entre vous qui sont angoissés notent bien ce qu'il n'a pas dit. Il n'a pas dit « Vous ne devez pas ressentir de douleur véritable ou de réelle tristesse à cause des expériences douloureuses que quelqu'un d'autre vous a fait subir. » Il ne dit pas non plus « Pour pardonner complètement, vous devez retourner dans une relation toxique ou des circonstances violentes et destructrices. » Mais malgré les offenses les plus terribles qui peuvent nous être faites, nous ne pouvons nous élever au-dessus de notre douleur que si nous posons le pied sur le chemin de la guérison véritable. Ce chemin est celui du pardon qu'a suivi Jésus de Nazareth, qui nous lance à tous cet appel. Viens et suis-moi. Dans son invitation à être ses disciples et à essayer de faire comme lui, Jésus nous demande d'être des instruments de sa grâce, d'être, comme Paul l'a dit dans Corinthiens, des ambassadeurs pour Christ dans le ministère de la réconciliation. Le guérisseur de toutes les blessures, celui qui redresse tous les torts, nous demande de travailler avec lui à la tâche intimidante de promotion de la paix dans un monde qui ne la trouvera d'aucune autre façon. Donc, comme l'a écrit Philip Brooks, vous qui laissez les malheureux malentendus courir d'année en année, ayant l'intention de les résoudre un jour, vous qui entretenez de pitoyables querelles parce que vous ne pouvez pas vraiment vous décider, que vous devez aujourd'hui sacrifier votre orgueil et les résoudre. Vous qui arborez un ton maussade quand vous croisez des gens dans la rue, ne leur adressant pas la parole à cause de vexations stupides. Vous qui laissez quelqu'un souffrir en son fort intérieur à cause d'une parole d'appréciation ou de sympathie que vous comptez donner un jour, allez sur le champ, faire ce que vous n'aurez peut-être jamais une autre chance de faire. Mes chers frères et sœurs, je témoigne que pardonner et oublier les offenses anciennes et récentes est au centre de la splendeur de l'expiation de Jésus-Christ. Je témoigne qu'au bout du compte, ce genre de remède spirituel ne peut venir que de notre divin Rédempteur, celui qui accourt avec la guérison sous ses ailes pour nous aider. Nous le remercions, lui et notre Père Céleste qui l'a envoyé, parce que le renouveau et la renaissance, ou la libération à venir d'anciennes peines et d'erreurs passées, sont non seulement possibles, mais ont déjà été achetées et payées à un coût inestimable, symbolisé par le sang de l'agneau qu'il a versé. Au nom de l'autorité apostolique qui m'a été accordée par le Sauveur du monde, je témoigne de la tranquillité de l'âme que la réconciliation avec Dieu et avec notre prochain nous apportera si nous sommes suffisamment humbles et courageux pour la rechercher. Cessez de vous critiquer les uns les autres, le Sauveur a plaidé. Si vous avez connaissance d'un préjudice passé, réparez-le. Prenez soin les uns des autres. Mes chers amis, dans ce ministère de réconciliation que nous partageons, je vous demande d'être des artisans de paix. Je lance cet appel au nom du Prince de la paix, qui connaît tout sur l'innocence et l'injustice. Et il sait tout à propos d'être blessé dans la maison de ses amis, mais qui trouve cependant la force de pardonner et d'oublier, et le fera toujours, et pour être heureux. Je prie pour cela, pour vous et pour moi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
L'assemblée se joindra maintenant au chœur pour chanter « Seigneur, merci pour le prophète », le numéro 10 dans le recueil de cantiques. Après ce chant, nous entendrons Shane Bowen des 70. Il sera suivi de Neil Anderson du Collège des 12 apôtres.
This is the 188th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Brothers and sisters, my uncle Morel.
Chers frères et sœurs, mon oncle Morel vient d'une famille de 11 enfants et il a toujours montré un exemple merveilleux pour chacun d'entre nous. Je l'aime vraiment beaucoup et j'attends avec impatience le jour où je pourrai le voir à nouveau. Beaucoup de gens aujourd'hui s'interrogent sur la réalité de Dieu et notre relation avec lui. Un grand nombre d'entre eux ne savent rien ou pas grand-chose de son grand plan du bonheur. Il y a plus de 30 ans, Ezra Taft Benson a fait cette remarque. La majeure partie du monde, de nos jours, rejette la nature divine du Sauveur. On remet en question sa naissance miraculeuse, sa vie parfaite, la réalité de sa résurrection glorieuse. Aujourd'hui, les questions portent non seulement sur notre Sauveur, mais aussi sur son Église, l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, qu'il a rétabli par l'intermédiaire de Joseph Smith, le prophète. Elle porte généralement sur l'histoire, les enseignements ou les pratiques de l'Église du Sauveur. Dans le guide « Prêcher mon Évangile », on lit « Souvenez-vous que la compréhension que nous avons de notre Père Céleste et de son plan du bonheur nous vient des prophètes modernes, de Joseph Smith et de ses successeurs, qui reçoivent la révélation directe de Dieu. C'est pourquoi, la première question à laquelle on devrait répondre est de savoir si Joseph Smith était un prophète, et l'on peut y répondre en lisant le livre de Mormon et en priant à son sujet. Mon témoignage de l'appel divin de Joseph Smith, le prophète, s'est renforcé lorsque j'ai étudié à l'aide de la prière le livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ. J'ai suivi l'invitation de Moroni de demander à Dieu, le Père éternel, au nom du Christ, si le livre de Mormon est vrai. Je témoigne qu'il l'est. Cette connaissance m'est parvenu tout comme elle peut vous parvenir, par le pouvoir du Saint-Esprit. Dans l'introduction du Livre de Mormon, on lit « Ceux qui obtiendront ce témoignage divin du Saint-Esprit seront aussi, par le même pouvoir, que Jésus-Christ est le Sauveur du monde, que Joseph Smith est son révélateur et son prophète en ces derniers jours, et que l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours est le royaume du Seigneur établi de nouveau sur la terre pour préparer la seconde venue du Messie. » Lorsque j'étais jeune missionnaire en route pour le Chili, j'ai appris une leçon marquante sur le pouvoir de conversion du Livre de Mormon. Un homme que j'appellerais M. Gonzalez avait occupé un poste respecté dans son église pendant de nombreuses années. Il avait une formation religieuse approfondie, notamment un diplôme de théologie. Il n'était pas peu fier de sa maîtrise de la Bible. Nous n'avions aucun doute qu'il était un érudit religieux. Il était bien conscient de la présence des missionnaires saints des derniers jours qui travaillaient dans sa ville à Lima, au Pérou. Il avait toujours souhaité les rencontrer pour pouvoir leur expliquer la Bible. Un jour, presque comme un don du ciel, du moins c'est ce qu'il a pensé, deux missionnaires l'ont arrêté dans la rue et lui ont demandé s'il pouvait venir chez lui pour lire les Écritures avec lui. Son rêve était sur le point de se réaliser. Ses prières avait été exaucé. Il allait enfin pouvoir remettre sur le droit chemin ces deux jeunes garçons égarés. Il leur a dit qu'il serait ravi de les recevoir chez lui pour discuter les Écritures. Il était impatient que son rendez-vous arrive. Il était prêt à utiliser la Bible pour réfuter leurs croyances. Il était persuadé qu'elle mettrait clairement et explicitement en évidence l'erreur de leur voie. Le soir fixé, les missionnaires ont frappé à la porte. Ils ne pouvaient plus contenir son excitation. Le moment était enfin arrivé. Il a ouvert la porte et les a fait entrer chez lui. L'un des deux missionnaires lui a tendu un livre bleu et a témoigné avec sincérité qu'il savait qu'il contenait la parole de Dieu. Le second a, à son tour, témoigné avec force du livre, attestant qu'il avait été traduit par un prophète de Dieu moderne du nom de Joseph Smith et qu'il contenait des enseignements sur Jésus-Christ. Puis, les missionnaires ont pris congé et sont partis. M. Gonzalez était très déçu, mais il a ouvert le livre et a commencé à le feuilleter. Il a lu la première page, puis il a lu page après page, sans s'arrêter jusqu'au lendemain, tard dans l'après-midi. Il a lu le livre en entier et a su qu'il était vrai. Il a su ce qu'il devait faire. Il a téléphoné au missionnaire, a suivi les leçons et a renoncé à la vie qu'il avait menée pour devenir membre de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Cet homme bon était mon instructeur au centre de formation des missionnaires de Provo. L'histoire de la conversion de Frère Gonzalez et la puissance du Livre de Mormon m'ont profondément marqué. Quand je suis arrivé au Chili, mon président de mission, Royden G. Glade, nous a demandé de lire chaque semaine le témoignage de Joseph Smith, le prophète rapporté dans Joseph Smith Histoire. Il nous a enseigné qu'il y aurait un lien direct entre le témoignage de la première vision et notre propre témoignage de l'Évangile et du Livre de Mormon. J'ai pris son invitation au sérieux. J'ai lu les récits de la première vision. J'ai lu le Livre de Mormon. J'ai prié comme Moroni le recommande et j'ai demandé à Dieu, le Père éternel, au nom du Christ, si le Livre de Mormon est vrai. Je témoigne aujourd'hui que je sais que, comme Joseph Smith, le prophète, l'a déclaré, le Livre de Mormon est le plus correct de tous les livres de la terre et la clé de voûte de notre religion, et qu'un homme se rapprochera davantage de Dieu en suivant les préceptes que par n'importe quel autre livre. Joseph le prophète a également déclaré « Enlevez le Livre de Mormon et les révélations, et où est notre religion? Nous n'en avons pas. » Quand nous comprenons mieux qui nous sommes et les objectifs du Livre de Mormon, notre conversion devient plus profonde et plus certaine. Notre engagement de respecter les alliances que nous avons contractées avec Dieu est renforcé. L'un des principaux objectifs du Livre de Mormon est de rassembler Israël dispersé. Ce rassemblement donne à tous les enfants de Dieu la possibilité d'entrer sur le chemin des alliances et, s'ils honorent ces alliances, de retourner en présence du Père. Lorsque nous enseignons le repentir et baptisons des convertis, nous rassemblons Israël. Le Livre de Mormon contient 108 références à la maison d'Israël. Au début du Livre de Mormon, Néphi a enseigné « Car tout mon dessein est de persuader les hommes de venir au Dieu d'Abraham et au Dieu d'Isaac et au Dieu de Jacob et d'être sauvés. » Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est Jésus-Christ, le Dieu de l'Ancien Testament. Nous sommes sauvés si nous allons au Christ en mettant en pratique son évangile. Plus tard, Néphi a écrit, « Oui, effectivement, mon père parla beaucoup des gentils et aussi de la maison d'Israël, disant qu'on devait la comparer à un olivier dont les branches seraient rompues et dispersées sur toute la surface de la terre. Et lorsque la maison d'Israël aurait été dispersée, elle serait de nouveau rassemblée. En bref, lorsque les gentils auraient reçu la plénitude de l'Évangile, les branches naturelles de l'olivier ou les restes de la maison d'Israël seraient greffées ou parviendraient à la connaissance du vrai Messie, leur Seigneur et leur Rédempteur. » De la même manière, à la fin du Livre de Mormon, le prophète Moroni nous rappelle nos alliances lorsqu'il dit « Afin que tu ne sois plus confondu que les alliances que le Père éternel a faites avec toi, ô maison d'Israël, s'accomplissent. » Quelles sont les alliances que le Père éternel a faites avec nous, dont parle Moroni? Nous lisons dans les livres d'Abraham, « Mon nom est Jéhovah, et je connais la fin dès le commencement. C'est pourquoi ma main sera sur toi. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai au-delà de toute mesure. Je rendrai ton nom grand parmi toutes les nations. Et tu seras une bénédiction pour ta postérité après toi, en ceci qu'elle portera de ses mains ce ministère et cette prêtrise à toutes les nations. » Russell Nelson a enseigné lors d'une émission mondiale récente, je cite, « Nous sommes dans les derniers jours, et le Seigneur accélère son œuvre de rassemblement d'Israël. Ce rassemblement est la chose la plus importante qui se produit sur la terre aujourd'hui. Rien d'autre n'est comparable en magnitude, rien d'autre n'est comparable en importance, rien d'autre n'est comparable en majesté. Et si vous choisissez de le faire, si vous le voulez, vous pouvez y jouer un rôle important. Vous pouvez jouer un grand rôle dans quelque chose d'important, dans quelque chose de grandiose, dans quelque chose de majestueux. Quand nous parlons du rassemblement, nous exprimons simplement cette vérité fondamentale, que chacun des enfants de notre Père Céleste, des deux côtés du voile, mérite d'entendre le message de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ. Ils décident pour eux-mêmes s'ils veulent en savoir plus. C'est ce que nous faisons, nous, membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Nous nous efforçons d'amener le monde à la compréhension de l'Évangile de Jésus-Christ et à la conversion à cet Évangile. Nous sommes les rassembleurs des derniers jours. Notre mission est claire. Frères et sœurs, puissions-nous être connus comme des gens qui ont pris à cœur la promesse de Moroni, ont prié et ont reçu une réponse et savent ainsi que le Livre de Mormon est vrai et ont transmis cette connaissance par leurs paroles et plus important encore, par leurs actes. Le Livre de Mormon contient la plénitude de l'Évangile de Jésus-Christ. Il nous conduit aux alliances du Père, et si nous les respectons, nous donne l'assurance de son plus grand don, la vie éternelle. Le Livre de Mormon est la clé de voûte de la conversion de tous les fils et de toutes les filles de notre Père Céleste. Je cite à nouveau le président Nelson. En lisant quotidiennement le Livre de Mormon, vous apprendrez la doctrine du rassemblement ainsi que des vérités concernant Jésus-Christ, son expiation et la plénitude de son évangile qui ne se trouve pas dans la Bible. Le Livre de Mormon est essentiel au rassemblement d'Israël. En fait, le rassemblement d'Israël promis ne pourrait pas s'accomplir sans le Livre de Mormon. Fin de citation. Je conclus par les paroles que le Sauveur a adressées aux Néphites quand il leur a parlé des bénédictions promises. Voici, vous êtes les enfants des prophètes. Et vous êtes de la maison d'Israël, et vous êtes de l'alliance que le Père a faite avec vos pères, disant à Abraham, « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Je témoigne que nous sommes fils et filles de Dieu, la postérité d'Abraham et la maison d'Israël. Nous rassemblons Israël pour la dernière fois, et le faisons à l'aide du Livre de Mormon. Un livre qui, associé avec l'Esprit du Seigneur, est le plus puissant instrument de conversion. Nous sommes guidés par un prophète de Dieu, le président Nelson, qui dirige le rassemblement d'Israël de nos jours. Le Livre de Mormon est vrai. Il a changé ma vie. Je vous promets, comme l'ont fait Moroni et de nombreux autres prophètes tout au long des siècles, qu'il peut aussi changer la vôtre. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Le 22 mars 2016, peu avant 8 heures du matin, deux bombes posées par des terroristes ont explosé dans l'aéroport de Bruxelles. Les frères missionnaires Norby Wells et MP accompagnaient Sir Klein qui devait prendre un vol pour se rendre dans sa mission à Cleveland aux États-Unis. 32 personnes ont été tuées et tous les missionnaires ont été blessés. C'est Richard Norby, âgé de 66 ans, en mission avec sa femme Pam, qu'il a été le plus grièvement. En repensant à ce moment, Frère Norby a raconté « J'ai instantanément su ce qui se passait. J'ai essayé de courir, mais me mettre à l'abri, mais je suis immédiatement tombé. J'ai vu que ma jambe gauche était gravement blessée. J'ai remarqué de la suie qui pendait de mes mains, presque comme des toiles d'araignée. J'ai tiré dessus doucement, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas de la suie, mais de la peau brûlée. Ma chemise blanche rougissait à cause d'une blessure que j'avais au dos. À mesure que j'ai pris conscience de ce qui venait d'arriver, une pensée s'est imposée à moi. Le Sauveur savait où j'étais, ce qui venait de se passer et ce que j'éprouvais à cet instant. Les jours qui ont suivi ont été difficiles pour Richard Norby et sa femme Pam. Il a été plongé dans un coma artificiel, a subi des interventions chirurgicales, des infections, et ressenti une grande incertitude. Il a survécu, mais sa vie ne sera plus jamais la même. 2 ans et demi plus tard, le processus de guérison se poursuit toujours. Un appareil orthopédique remplace la partie manquante de sa jambe et aucun de ses pas n'est comme avant ce jour dans l'aéroport de Bruxelles. Pourquoi une telle chose a-t-elle pu arriver à Richard et Pam Norby? Ils étaient fidèles à leur alliance et avant cette mission, ils en avaient fait une en Côte d'Ivoire et avaient élevé de merveilleux enfants. On pourrait légitimement dire « ce n'est pas juste, ce n'est tout simplement pas juste ». Ils étaient en train de donner leur vie pour l'évangile de Jésus-Christ. Comment est-ce possible? Bien que dans les détails, elles puissent varier, les tragédies, les épreuves inattendues, physiques et spirituelles, nous arrivent à tous. En effet, telle est la condition mortelle. En réfléchissant aux orateurs de cette session de conférence, je me suis rendu compte que 2 d'entre eux ont vu des enfants et 3 des petits-enfants retourner prématurément dans leur foyer céleste. Aucun n'a été épargné par la maladie et la tristesse. Et, comme nous en avons parlé cette semaine même, Barbara Ballard, un ange qui vivait sur la terre et que nous aimons, est passé paisiblement de l'autre côté du voile. Nous n'oublierons jamais le témoignage rendu par le président Ballard ce matin. Nous recherchons le bonheur. Nous aspirons à la paix. Nous espérons l'amour. Et le Seigneur déverse sur nous une incroyable abondance de bénédictions. Cependant, une chose est sûre, vous connaîtrez, mêlés à la joie et au bonheur, des moments, des heures, des jours et parfois des années où votre âme sera blessée. Les Écritures enseignent que nous goûterons l'amer et le doux, et qu'il y aura de l'opposition en toutes choses. Jésus a dit, « Votre Père fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. » Les blessures de l'âme ne sont pas propres à une culture, à une nation ou une génération, à la richesse ou à la pauvreté. Elles touchent tout le monde et font partie de l'apprentissage de la condition mortelle. Mon discours aujourd'hui s'adresse spécialement aux personnes qui respectent les commandements de Dieu, respectent les promesses qu'elles lui ont faites, et qui, comme les Norby, et d'autres hommes, femmes et enfants de cet auditoire mondial, sont aux prises avec des épreuves imprévues et douloureuses. Nos blessures peuvent être la conséquence d'une catastrophe naturelle ou d'un accident malheureux. Elles peuvent être causées par un mari ou une femme infidèle qui bouleverse la vie de son conjoint juste et de leurs enfants. Les blessures peuvent provenir de l'obscurité, de la tristesse, d'une dépression, d'une maladie inattendue, de la douleur, de la perte prématurée d'un être cher, du chagrin de voir un membre de sa famille renier sa foi, de la solitude d'une vie sans conjoint éternel, ou d'une centaine d'autres épreuves démoralisantes et douloureuses, et de chagrins ou de secrets que l'œil ne peut voir. Nous comprenons tous que les épreuves font partie de la vie, mais lorsqu'elles nous arrivent, elles peuvent nous laisser sans voix. Sans nous alarmer, nous devons nous tenir prêts. L'apôtre Pierre a dit, « Ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Avec les couleurs éclatantes du bonheur et de la joie, les fils de couleurs plus sombres de l'épreuve et de la tragédie sont tissés profondément dans la tapisserie du plan de notre Père. Ces combats, bien que difficiles, deviennent souvent nos plus grands instructeurs. En racontant l'histoire miraculeuse des 2060 jeunes guerriers des Lamans, nous répétons souvent ce verset. Selon la bonté de Dieu et à notre grand étonnement, et aussi à la joie de toute notre armée, il n'y eut pas une seule âme d'entre eux qui périt. Néanmoins, la phrase continue. Oui, il n'y eut pas non plus une seule âme parmi eux qui n'eut pas reçu de nombreuses blessures. Chacun de ces 2060 jeunes guerriers reçut de nombreuses blessures, et chacun de nous sera blessé dans la bataille de la vie, physiquement, spirituellement ou les deux. N'abandonnez jamais, quelle que soit la profondeur des blessures de votre âme, quelle que soit leur source, quel que soit le lieu ou le moment où elles se produisent, et quelle que soit leur durée, vous n'êtes pas censé périr spirituellement. Vous êtes censé survivre spirituellement et progresser dans votre foi et votre confiance en Dieu. Dieu n'a pas créé notre esprit pour qu'il soit indépendant de lui. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, par le don incommensurable de son expiation, non seulement nous sauve de la mort, et si nous nous repentons, nous pardonne nos péchés, mais il est aussi prêt à nous sauver des chagrins et des souffrances de notre âme blessée. Le Sauveur est le bon Samaritain, envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il vient vers nous quand d'autres nous ignorent. Avec compassion, il enduit nos blessures de baume guérisseur et les panse. Il nous porte. Il se soucie de nous. Il nous invite à venir à lui afin de nous guérir. Et Jésus subira des souffrances et des afflictions et des tentations de toute espèce, et cela afin de prendre sur lui les souffrances et les maladies de son peuple, en prenant sur lui nos infirmités avec miséricorde. Vous qui souffrez, venez, venez au Dieu de grâce. Il veut vous pardonner et vous bénir. Parlez-lui du danger qui vous menace. Si grands soient nos maux, il peut les guérir. À l'un des moments les plus douloureux de la vie de Joseph, le prophète, le Seigneur lui a dit, « Toutes ces choses te donneront de l'expérience et seront pour ton bien. » Comment des blessures douloureuses peuvent-elles être pour notre bien? Dans le creuset des épreuves terrestres, restez patient et ferme. Le pouvoir guérisseur du Sauveur vous apportera lumière, compréhension, paix et espérance. Priez de tout votre cœur. Affermissez votre foi en Jésus-Christ, en sa réalité et en sa grâce. Accrochez-vous à ses paroles. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Souvenez-vous, le repentir est un remède spirituel puissant. Gardez les commandements, soyez dignes du Consolateur, et souvenez-vous que le Sauveur a promis qu'il ne nous laisserait pas orphelins et qu'il viendrait à nous. La paix du temple est un baume apaisant pour l'âme blessée. Retournez à la maison du Seigneur avec des noms de vos ancêtres le plus fréquemment possible. Le temple projette notre bref passage dans la condition mortelle sur le grand écran de l'éternité. Regardez en arrière, vous souvenant que vous avez démontré votre dignité dans votre état prémortel. Vous êtes un enfant vaillant de Dieu, et avec son aide, vous pouvez triompher dans les batailles de ce monde déchu. Vous l'avez fait avant, vous pouvez le refaire. Regardez vers l'avant. Vos ennuis et vos chagrins sont très réels, mais ils ne dureront pas éternellement. La nuit sombre finira, car le Fils est effectivement ressuscité, avec la guérison dans ses ailes. Les Norbis m'ont dit, de temps en temps, la déception vient nous rendre visite, mais on ne l'autorise jamais à rester. L'apôtre Paul a dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Il se peut que vous soyez épuisés, mais n'abandonnez jamais. Même avec vos blessures douloureuses, vous vous tournerez instinctivement vers les autres, avec une confiance totale en la promesse du Sauveur, que celui qui perdra sa vie à cause de lui la retrouvera. Les blessés qui soignent les blessures des autres sont des anges de Dieu sur la terre. Dans quelques instants, nous écouterons notre prophète bien-aimé, Russell M. Nelson, un homme dont la foi en Jésus-Christ est inébranlable, un homme optimiste et pacifique, aimé de Dieu et dont l'âme a eu son lot de blessures. En 1995, sa fille Emily, enceinte, a appris qu'elle avait un cancer. Il y a eu des jours d'espérance et de bonheur quand elle a mis au monde un bébé en bonne santé. Toutefois, le cancer a récidivé et leur Emily chérie est décédée à 2 semaines de son 37e anniversaire, laissant son mari et 5 jeunes enfants. À la conférence générale, peu après son décès, Frère Nelson a confié « Mes larmes de chagrin ont accompagné mes regrets de n'avoir pas pu faire davantage pour notre fille. Si j'avais eu le pouvoir de la ressusciter, j'aurais été tenté de le faire. Mais Jésus-Christ détient ses clés et les utilisera pour Emily et pour tout le monde au moment choisi par lui. » Le mois dernier, pendant que nous rendions visite aux membres de l'Église à Puerto Rico et que nous nous souvenions du désastre provoqué par l'ouragan de l'année dernière, le président Nelson a prononcé un discours empreint d'amour et de compassion. Cela fait partie de la vie. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Nous sommes ici pour recevoir un corps et être éprouvés. Certaines de ces épreuves sont physiques, d'autres sont spirituelles, et les vôtres ont été physiques et spirituelles. Vous n'avez pas abandonné. Nous sommes si fiers de vous. Vous, saints fidèles, avez beaucoup perdu, mais malgré cela, vous avez nourri votre foi au Seigneur Jésus-Christ. En respectant les commandements de Dieu, nous pouvons trouver de la joie, même dans les pires situations. Mes frères et sœurs, je vous promets qu'en faisant grandir votre foi au Seigneur Jésus-Christ, vous recevrez un surcroît de force et d'espérance. Pour vous, les justes, le guérisseur de notre âme guérira toutes vos blessures en son temps et à sa manière. Aucune injustice, persécution, épreuve, tristesse, peine, souffrance, blessure, aussi profonde, large et douloureuse soit-elle, ne sera exclue du réconfort, de la paix et de l'espérance durable de celui dont les bras ouverts et les mains meurtries nous accueilleront à notre retour en sa présence. L'apôtre Jean témoigne qu'en ce jour-là, les justes qui viennent de la grande tribulation seront revêtus de robes blanches devant le trône de Dieu. L'agneau qui est au milieu de nous essuiera toute larme de vos yeux. Ce jour-là viendra. J'en témoigne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous remercions les orateurs qui se sont adressés à nous jusqu'à présent et le chœur du tabernacle pour la belle musique qu'il a interprétée ce matin. Le chœur va maintenant interpréter « His voice has the sound ». Après le chant, nous aurons le plaisir d'entendre notre prophète bien-aimé, Russell Nelson. Après le discours du président Nelson, le chœur terminera cette réunion en chantant « It is well with my soul ». Donald Ahlstrom des 70 fera ensuite la prière de clôture.
Thank you, choir.
Merci, chœur. Mes chers frères bien-aimés, pendant cette belle journée de sabbat, nous nous réjouissons des grandes bénédictions du Seigneur. Nous sommes reconnaissants de vos témoignages de l'évangile rétabli de Jésus-Christ, des sacrifices que vous avez faits de rester sur ce chemin des alliances pour votre service consacré dans cette Église. Aujourd'hui, je ressens le besoin de parler d'une chose de grande importance. Aujourd'hui, je me sens poussé à aborder un sujet d'une grande importance. Il y a quelques semaines, j'ai publié une déclaration relative à la rectification du nom de l'Église. Je l'ai fait parce que le Seigneur m'a fait comprendre l'importance du nom qu'il a décrété pour son Église, l'Église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours. Comme on peut s'y attendre, les réactions à cette déclaration et au guide stylistique révisé ont été mitigées. De nombreux membres ont immédiatement corrigé le nom de l'Église sur leur blog et leur page dans les réseaux sociaux. D'autres se sont demandé pourquoi, avec tout ce qui se passe dans le monde, il était nécessaire d'insister sur quelque chose d'aussi anodin. Et d'autres ont dit que ce n'était pas faisable et qu'ils se demandaient pourquoi s'embêter à essayer. Je vais expliquer pourquoi ce sujet nous tient si profondément à cœur. Mais d'abord, je tiens à dire que cette démarche n'est pas. Ce n'est pas un changement de nom. Ce n'est pas une refonte d'image de marque. Ce n'est pas une question d'esthétique. Ce n'est pas une lubie. Et ce n'est pas anodin. En fait, c'est une rectification. C'est le commandement du Seigneur. Joseph Smith n'a pas attribué un nom à l'Église rétablie par son intermédiaire. Mormon non plus. C'est le Sauveur lui-même qui a dit, car c'est là le nom que portera mon Église dans les derniers jours, c'est-à-dire l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Encore plus tôt, en 34 après Jésus-Christ, notre Seigneur ressuscité a donné des instructions similaires aux membres de son Église lorsqu'il leur a rendu visite en Amérique. À cette époque, il a dit, vous appellerez l'Église de mon nom. Et comment est-elle mon Église si elle n'est pas appelée de mon nom? Car si une Église est appelée du nom de Moïse, alors c'est l'Église de Moïse. Ou si elle est appelée du nom d'un homme, alors c'est l'Église d'un homme. Mais si elle est appelée de mon nom, alors c'est mon Église. Le nom de l'Église n'est donc pas négociable. Lorsque le Sauveur annonce clairement le nom que doit porter son Église, et fait même précéder sa déclaration de « C'est là le nom que portera mon Église ». Il est sérieux. Si nous permettons l'utilisation de surnoms et adoptons ou même parrainons ces surnoms, nous l'offensons. Que recèle un nom, ou dans ce cas un surnom? Pour ce qui est des surnoms de l'Église, tels que Église SDJ, Église mormone, ou Église des saints des derniers jours, ce qui saute aux yeux, c'est l'absence du nom du Sauveur. Supprimer le nom du Seigneur de l'Église du Seigneur constitue une victoire considérable pour Satan. Lorsque nous oblitérons le nom du Sauveur, c'est une façon subtile de ne pas tenir compte de tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous, c'est-à-dire son expiation. Réfléchissons-y de son point de vue. Dans la vie prémortelle, il était Jéhovah, le Dieu de l'Ancien Testament. sous la direction de son père, il a été le créateur de ce monde, ainsi que d'autres. Il a choisi de se soumettre à la volonté de son père et de faire pour tous les enfants de Dieu ce que personne d'autre ne pouvait faire. Il a condescendu à venir ici-bas, en qualité de fils unique du Père dans la chair. On l'a injurié, raillé, humilié. On a craché sur lui et on l'a flagellé. Dans le jardin de Gethsémané, le Sauveur a pris sur lui chaque douleur, chaque péché et toute l'angoisse et la souffrance jamais éprouvées par vous et moi et toutes les personnes qui ont jamais vécu ou vivront jamais. Sous le poids de ce fardeau insoutenable, il a saigné à chaque pore. Toute cette souffrance s'est intensifiée lorsqu'on l'a cruellement cloué sur la croix du calvaire. Grâce à ces expériences atroces et à sa résurrection qui suivit, c'est-à-dire son expiation infinie, il accorde l'immortalité à tous et rachète chacun de nous des effets du péché, à condition que nous nous repentions. Après la résurrection du Sauveur et la mort de ses apôtres, le monde a plongé dans des siècles de ténèbres. Puis en 1820, Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ sont apparus à Joseph Smith, le prophète, pour commencer le rétablissement de l'Église du Seigneur. Après tout ce qu'il a subi, après tout ce qu'il a fait pour l'humanité, je regrette profondément que nous ayons involontairement consenti que l'Église rétablie du Seigneur porte d'autres noms, lesquels éliminent tous le nom sacré de Jésus-Christ. Chaque dimanche, lorsque nous prenons dignement la Sainte Cène, nous renouvelons notre promesse sacrée à notre Père Céleste d'être disposés à prendre sur nous le nom de son Fils, Jésus-Christ. Nous promettons de le suivre, de nous repentir, de respecter ses commandements et de nous souvenir toujours de lui. Lorsque nous omettons son nom de son Église, sommes-nous, par inadvertance, en train de ne plus faire de lui le point de mire de notre vie? Prendre sur nous le nom du Sauveur comprend déclarer et témoigner aux autres, par nos actes et nos paroles, que Jésus est le Christ. Avons-nous eu si peur d'offenser quelqu'un qui nous appelait mormon, que nous avons omis de défendre le Sauveur lui-même en défendant le nom par lequel son Église est appelée? En tant que peuple et individuellement, pour avoir accès au pouvoir de l'expiation de Jésus-Christ, de nous purifier, de nous guérir, de nous fortifier, de nous magnifier et finalement de nous exalter, nous devons clairement reconnaître qu'il est la source de ce pouvoir. Nous pouvons commencer par appeler son Église par le nom qu'il a décrété. Pour une grande partie du monde, l'Église du Seigneur est actuellement déguisée en Église mormone. Mais nous, membres de l'Église du Seigneur, nous savons qui est à sa tête, Jésus-Christ lui-même. Malheureusement, en entendant le terme « mormon », de nombreuses personnes risquent de penser que nous adorons mormons. Il n'en est rien. Nous honorons et respectons ce grand prophète américain d'autrefois. Néanmoins, nous ne sommes pas les disciples de mormons. Nous sommes les disciples du Seigneur. Dans les premiers temps de l'Église rétablie, les termes tels que « Église mormone » et « mormon » étaient souvent des insultes, des propos cruels et injurieux, conçus pour oblitérer la main de Dieu dans le rétablissement de l'Église de Jésus-Christ en ces derniers jours. Frères et sœurs, de nombreux arguments profanes se dressent contre l'idée de redonner à l'Église son nom correct. Dans le monde numérique d'aujourd'hui, où l'optimisation des moteurs de recherche nous permet à tous de trouver les renseignements dont nous avons besoin presque instantanément, y compris les renseignements relatifs à l'Église du Seigneur, les détracteurs disent qu'une rectification à ce stade est mal avisée. D'autres pensent que nous sommes tellement connus sous les noms de Mormons et Église mormone que nous devrions en tirer le meilleur parti possible. S'il était question de nommer une organisation créée par des hommes, ces arguments pourraient prévaloir. Mais pour cette question cruciale, nous nous tournons vers celui dont c'est l'Église et nous reconnaissons que ses voies ne sont pas et ne seront jamais celles des hommes. Si nous sommes patients et jouons bien notre rôle, le Seigneur nous guidera dans cette tâche importante. Après tout, nous savons que le Seigneur aide toutes les personnes qui s'efforcent de faire sa volonté, tout comme il a aidé Néphi à accomplir la tâche de construire un bateau pour traverser la mer. Nous veillerons à être courtois et patients dans nos efforts pour rectifier ces erreurs. Les médias sérieux seront favorables à notre demande. Dans une conférence générale passée, Benjamin de Hoyos a parlé d'un événement de ce genre. Il a dit, il y a quelques années, alors qu'un collègue et moi travaillions au service de la communication de l'Église au Mexique, nous avons été invités à participer à un débat à la radio. L'un des directeurs de l'émission nous a demandé, pourquoi est-ce que l'Église a un nom aussi long? Mon collègue et moi avons souri à cette brillante question, puis nous avons commencé à expliquer que le nom de l'Église n'avait pas été choisi par l'homme, mais que le Sauveur l'avait révélé. Le directeur de l'émission a répondu immédiatement et avec respect. Alors, nous le répéterons avec grand plaisir. Fin de citation. Ce récit est un modèle. Cela exigera un gros effort personnel après l'autre pour rectifier les erreurs qui se sont glissées au fil des années. Le reste du monde peut suivre notre exemple ou pas en nous appelant par le nom exact. Mais il serait hypocrite de notre part d'être mécontent qu'il désigne l'Église et ses membres par un nom erroné si nous faisons de même. Notre guide de stylistique révisé est utile. Il y est dit. Dans la première mention, il vaut mieux utiliser le nom complet de l'Église, l'Église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours. Si vous avez besoin d'une deuxième mention abrégée, nous recommandons les termes l'Église ou l'Église de Jésus-Christ. L'Église rétablie de Jésus-Christ est aussi exact et recommandé. Si quelqu'un vous demande, êtes-vous mormon? Vous pourriez répondre, si vous me demandez si je suis membre de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, alors oui. Si quelqu'un demande, êtes-vous saint des derniers jours? Vous pourriez répondre, oui, je crois en Jésus-Christ et je suis membre de son Église rétablie. Mes chers frères et sœurs, je vous promets que si nous faisons notre mieux pour établir le nom exact de l'Église du Seigneur, il déversera son pouvoir et ses bénédictions sur la tête des saints des derniers jours, d'une manière telle qu'on n'en a jamais vu de pareil. Nous aurons la connaissance et le pouvoir de Dieu pour nous aider à apporter les bénédictions de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ à toutes les nations, tribus, langues et peuples, et pour préparer le monde à la seconde venue du Sauveur. Alors, que recèle un nom? Pour ce qui est du nom de l'Église du Seigneur, la réponse est tout. Jésus-Christ nous a commandé d'appeler l'Église par son nom parce que c'est son Église remplie de son pouvoir. Je sais que Dieu vit. Jésus est le Christ. Il dirige son Église aujourd'hui. J'en témoigne au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
My soul rose like sea. Our Father in heaven,
notre cher Père Céleste, nous sommes assemblés en ce jour de sabbat en tant que membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Nous sommes vraiment reconnaissants pour notre prophète qui nous guide en ces derniers jours. Reconnaissants pour cette période d'abondante révélation. Et nous comprenons que de grandes responsabilités sont attachées à ces bénédictions que nous recevons. Et nous te demandons de nous aider à nous tenir à la hauteur, de nous aider à comprendre ce que nous devons faire et pourquoi nous devons le faire. Comprendre la doctrine qui a été enseignée lors de cette conférence générale. Et alors que chacun d'entre nous suit ton Fils et toi, que nous puissions ainsi mériter la vie éternelle. Nous te remercions, Père, pour l'autorité apostolique et pour le privilège que nous avons d'être bénis dans cette Église par la prêtrise de ton Fils et de toi. Et nous te demandons de nous aider à méditer les choses qui nous ont été enseignées et que nous avons comprises aujourd'hui. Nous t'aimons, Père, nous aimons ton Fils et nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Vous venez d'assister à une session de la 188e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par le chœur du tabernacle. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.